VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, forte tension à Libreville, la capitale, où au moins 2 personnes ont été tuées selon l'opposition et plusieurs autres blessées très tôt ce jeudi lors de l'assaut des forces de sécurité contre le quartier général de l'opposant Jean Ping, dont l'annonce de la défaite à la présidentielle a plongé la capitale gabonaise dans des violences. Les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses arrestations aux abords du quartier général de campagne de Jean Ping, mais le leader d'opposition lui-même est introuvable. Et on ignore où il a trouvé refuge. Le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Pour le moment, un bilan précis, c'est très difficile à donner. Je sais que Jean Ping a annoncé 2 morts. Des opposants m'ont parlé de 8 morts. Je sais qu'il y a de nombreuses arrestations au sein de l'opposition, y compris la plupart des cadres qui tournaient autour de Jean Ping. On me dit que même Zakari Mboto s'est remis au Niouf. Donc, par-delà cela, les barricades en ville, l'Assemblée nationale a été partiellement brûlée, le siège du quotidien national, l'Union aussi, et je sais qu'une télévision Nazareth qui est proche de Jean Ping a été attaquée cette nuit par des hommes cagoulés. Donc, globalement, la situation est si tendue qu'il n'y a pas de taxi qui circule à Libreville. Tous les magasins sont fermés, même l'hôtel où j'habite, les travailleurs n'ont pas pu venir à leur boulot aujourd'hui. Le calme est relativement revenu, mais cela me semble être un calme précaire parce que les jeunes qui ont manifesté hier avec lesquels j'ai parlé tenaient un meeting pour voir comment est-ce qu'ils vont aborder la journée. Donc au lendemain de la victoire annoncée de M. Ali Bongo, à quoi ressemble Libreville, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ville fantôme.
Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a qualifié aujourd'hui la situation post-électorale au Gabon de crise profonde et exhorté les différentes parties au calme. Toute contestation doit se faire avec des moyens pacifiques afin d'éviter l'embrasement du pays, a déclaré la vice-présidente de l'Union européenne dans un communiqué. Pour sa part, la France, ex-puissance coloniale, réclame une procédure transparente pour lever tout doute sur la sincérité de l'élection présidentielle. Tout comme l'Union européenne, Paris continue de préconiser la publication des résultats du scrutin bureau par bureau. Au Niger, le gouvernement nigérien compte céder pour un bail de 90 ans 120 000 hectares des terres agricoles à des Saoudiens dans le but, dit-il, de développer la région Est et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les négociations sont en cours, mais les organisations de la société civile s'opposent à cette cession, considérée par elles comme un bradage des terres fertiles indispensables pour le bétail. Ce sont les agriculteurs et des éleveurs qui vont être spoliés, s'inquiète Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen. On l'écoute.
Bon, on s'oppose parce que d'abord, les terres qui vont être concédées, ce ne sont pas des terres vierges et des terres inexploitées. Ce sont des terres agricoles déjà exploitées et aussi des terres pastorales. Donc, si on donne une telle superficie très vaste à un opérateur privé pour faire la production, ça sera au détriment des petits producteurs locaux, notamment les agriculteurs, les éleveurs qui vont être expoliés. Et donc, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'acceptable, d'autant plus qu'on ne peut pas compter sur des opérateurs privés pour assurer la sécurité alimentaire de la population. Et de surcroît, ça intervient à un moment où cela paraît déjà très, très grave. Vous savez que cette région de Diffa est confrontée à l'insurrection de Boko Haram depuis quelques années. C'est donc une région déjà déchiré par un conflit. Et donc, si on donne ces terres à des Saoudiens, alors qu'il n'y a pas très longtemps déjà, les populations ont été chassées de ces terres, à la fois par les attaques de Boko Haram, mais aussi par les décisions du gouvernement d'évacuer les îles et les villages du lac Tchad.
Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen au Niger. En Afrique du Sud, le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, soupçonné d'espionnage. Une affaire qui suscite des remous au sein du parti au pouvoir, l'ANC. L'avocat du suspect assure qu'il coopère pleinement avec les autorités. La police soupçonne Pravin Gordhan d'avoir supervisé la création au sein de ses services d'une unité chargée notamment d'espionner des hommes politiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a souligné hier que les États-Unis ont le droit de choisir les immigrés qui sont plus susceptibles de prospérer et d'aimer les Américains. Il l'a dit dans un discours sur l'immigration hier soir à Phoenix, dans l'Arizona, après une visite surprise au Mexique où il s'est entretenu avec le président mexicain Enrique Peña Nieto. Jean-Roger Bion fait le point.
Cette visite de M. Trump à Mexico n'avait pas été sans controverse, à savoir qui va payer la construction de son mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dans une conférence de presse conjointe avec M. Peña Nieto, M. Trump avait dit que cette question n'avait pas été spécifiquement abordée dans leur conversation. Le président mexicain, qui n'avait pas contredit publiquement le candidat républicain, a par la suite écrit sur Twitter « Au début de la conversation avec Donald Trump, j'ai clairement indiqué que le Mexique ne paierait pas le mur ». Réagissant dans son discours à Phoenix, M. Trump a assuré que le Mexique financerait bien la construction de ce mur.
And Mexico will pay for the wall.
Le Mexique paiera pour le mur, croyez-moi, à 100%. Ils ne le savent pas encore, mais ils paieront pour le mur. Ce mur est un point central des propositions de M. Trump pour freiner l'immigration clandestine, tout comme l'expulsion des sans-papiers, notamment des éléments criminels parmi eux, ainsi que le sort des 11 millions qui sont illégalement dans le pays. C'était un véritable réquisitoire que Donald Trump a prononcé contre les clandestins, qu'il a accusé de prendre les emplois des Américains les plus vulnérables. Il a donné des exemples de crimes violents commis par certains de ces illégaux, annonçant une tolérance zéro pour ce genre de comportement. Il a pris cet engagement dès qu'il sera à la Maison-Blanche.
Under my administration, anyone who illegally crosses the border will be detained until they are removed out of our country and back.
Dès le premier jour, dès la première heure, ces gens s'en iront, a-t-il déclaré, les estimant à 2 millions. Le candidat républicain s'est également engagé à annuler tous les décrets ayant accordé une régularisation temporaire à certains sans-papiers, un reproche au président Barack Obama. Donald Trump a résumé ainsi sa position. Dans plusieurs années, une fois atteints les objectifs de construction du mur et d'expulsion des clandestins dangereux, nous serons en position d'envisager des mesures appropriées pour les individus qui resteraient. Mais il est clair qu'ils devront au préalable retourner chez eux et demander à revenir conformément aux lois en vigueur. M. Trump entend aussi tripler le nombre d'agents du Service fédéral d'immigration, ICE, et créer 5 000 postes de policiers aux frontières, en plus de quelques 20 000 existants. Le républicain veut aussi renforcer les contrôles sur les visiteurs pour empêcher le dépassement de visas, réformer le système de visas et donner la priorité à l'immigration légale selon le mérite, les compétences. Il y a aussi, selon son plan, un test idéologique pour être sûr que les demandeurs de visa aiment l'Amérique et ses valeurs et rejettent entre autres l'islam radical ainsi que les préjugés contre les homosexuels. Pour les observateurs politiques, c'était le Donald Trump des primaires, un candidat qui rassurait sa base conservatrice plutôt que de l'élargir.
Le Brésil a un nouveau président. Dilma Rousseff, chef d'État de gauche, a été destitué hier et remplacé par Michel Temer, son ancien vice-président. Les détails avec Eddy Issango.
Madame Dilma Rousseff a été démise de ses fonctions au terme d'un procès de 6 jours au Parlement brésilien. L'ancienne chef de l'État a été entendue pour maquillage des comptes publics. Sa destitution marque la fin des 13 ans de gouvernement de gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine. Son remplaçant n'est autre que son ancien vice-président Michel Temer. Il a prêté serment au Sénat. Cet homme fort du PMDB, centre-droit, devra diriger un Brésil dans la tourmente jusqu'aux prochaines élections législatives et présidentielles fin 2018. Il a joué un rôle prépondérant dans la chute de Mme Rousseff. Tout aussi impopulaire que sa rivale, Michel Temer, 75 ans, n'a pas fait de déclaration après cette courte cérémonie, à l'issue de laquelle il s'est envolé vers la Chine pour les sommets du G20 avec l'objectif de tenter de redorer les blasons ternis de la première économie d'Amérique latine.
Le sommet du G20 qui s'ouvre dimanche à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine s'annonce comme une réunion de la dernière chance entre le président américain Barack Obama et son rival et son homologue russe Vladimir Poutine pour trouver un accord sur la Syrie et l'Ukraine à 2 mois de la présidentielle américaine. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.